Vous êtes sur RTL.
RTL.com.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Avant d'en venir au discours du président devant les policiers à Roubaix hier, vous avez fait un aller-retour dans la soirée, dans le Gard. Vous avez d'ailleurs déclaré l'état de catastrophe naturelle. La situation est pas encore stable ?
Elle n'est pas encore stable parce qu'il y a encore une personne officiellement disparue, même si de nombreuses personnes disparues hier ont été retrouvées, fort heureusement. Elle n'est pas encore stable parce qu'il y a encore des milliers d'habitants qui n'ont pas d'électricité et puis parce qu'il y a encore sans doute beaucoup de prévisions orageuses dans les heures qui viennent. Mmh. Et je veux le dire aux habitants du Gard, de l'Hérault, du sud-ouest de la France, de faire extrêmement attention aux messages officiels du gouvernement, des pompiers, des collectivités locales et de se mettre en hauteur si jamais les choses dramatiques devaient arriver puisqu'on évoque ces passages orageux.
Venons-en à présent aux annonces du président. Donc hier à Roubaix, Emmanuel Macron est venu clore le Beauvau de la sécurité qui avait été mise en place pour calmer la colère des policiers. Alors il y a les annonces, bien sûr, Gérald Darmanin, de court terme. Mais à quoi bon annoncer une grande loi de programmation pour la police si cette loi ne peut pas être votée avant la fin du quinquennat ?
Non, mais d'abord, le président de la République, il a annoncé énormément de choses extrêmement concrètes ici et maintenant. Alors, d'abord, un passé de 4 ans extrêmement fort sur le champ de la sécurité, j'y reviendrai. Mais surtout, 1,5 milliard d'euros de budget pour le budget 2022, c'est-à-dire pour les mois qui viennent. Celui que je suis en train de construire avec le ministre des Comptes Publics. Ça veut dire 11 000 véhicules. C'est-à-dire que nous allons changer les 3/4
Ça,
des
annoncé,
véhicules de police et de gendarmerie avant. L'élection présidentielle, si vous prenez cette échéance, ce que vous avez l'air de prendre, évidemment.
Mais parce que vous assumez enjamber la présidentielle. Non, mais je vous ai entendu, vous l'avez dit au Sénat d'ailleurs.
Non, mais le ministre de l'Intérieur, il est, comme tous les ministres, sans doute dans l'urgence. Le ministère doit être dans le temps long. Il n'y a pas eu d'organisation, de pensée de l'organisation du ministère de l'Intérieur depuis Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, ce qu'on appelle une loi d'orientation de la sécurité intérieure. Ça fait 20 ans quand Nicolas Sarkozy a imaginé l'arrivée de la vidéosurveillance dans les collectivités locales, ça date. Aujourd'hui, nous avons affaire à des dangers absolument nouveaux. Le cyber, les nouvelles formes de terrorisme, la délinquance numérique, les crypto-monnaies, les messageries cryptées. Tout ce qui empêche aujourd'hui les policiers et les gendarmes d'être plus efficaces dans la lutte contre ceux qui maltraitent les enfants, dans la lutte contre la drogue, dans la lutte contre le terrorisme. Et nous devons penser le temps long du ministère. Donc le président, il a fait deux choses.
Oui,
il
mais vous disiez justement, la sécurité, c'est aussi une urgence. Est-ce que ça n'arrive pas trop tard ? Les syndicats de policiers disent eux-mêmes, on voit que le temps de la campagne a commencé.
D'abord, les syndicats de policiers, je les en remercie, ont été extrêmement laudatifs sur le discours du président. C'est assez rare pour être souligné. Deuxièmement, moi je constate depuis 4 ans, tout ce qui a été fait par le président de la République, et je n'en ai pas été le ministre de l'Intérieur, mais j'ai été son ministre des Comptes Publics. J'ai vu tout ce qui a été dépensé pour la police et la gendarmerie. Et il y a eu 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Aujourd'hui, il y a plus de monde dans chacun des commissariats de France que quand le président de la République est arrivé. C'est extrêmement concret, Madame Ventura. Il y a eu un changement, je l'ai fait quand j'étais ministre des Comptes Publics, puis ministre de l'Intérieur, très important pour 700 commissariats et brigades de gendarmerie qui ont été entièrement rénovés. Il y a eu des organisations, notamment la lutte contre le terrorisme. 36 attentats déjoués parce qu'on a mis en place la coordination du renseignement, parce qu'on a recruté 1900 personnes à la DGSI et aux renseignements territoriaux. Il y a eu énormément de travail qui a été fait depuis 4 ans. Mais comme disait le président Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, on va vite et à la fin on accélère.
Ça fait deux fois que vous citez Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron fait du Sarkozy ?
J'ai trouvé que, très différemment, chacun dans son style, mais j'ai trouvé que le discours du président de la République s'inscrivait dans les grands discours républicains de M. Jox, de M. Sarkozy et lui-même. Dans c'est quoi la police dans 10 ou dans 15 ans ? Il y a l'urgence, ça c'est le travail du ministre de l'Intérieur, et il y a le temps long. Et ça, c'était le temps du président de la République.
Alors, la volonté, c'est de doubler les effectifs de police en 10 ans. Donc, vous avez parlé des 10 000 policiers. Une réserve de la police, 30 000 policiers. C'est quoi cette réserve ? C'est la même que la gendarmerie et à quoi seront-ils affectés ?
Exactement. Donc la gendarmerie nationale a ce qu'on appelle une réserve opérationnelle, c'est-à-dire des boulangers, des professeurs, des journalistes qui, indépendamment de leur métier, donnent plusieurs jours par mois à la gendarmerie et vont les aider. Ce qu'on appelle la réserve opérationnelle. Elle n'existe pas pour la police nationale. Elle existe un peu pour les retraités de la police nationale, mais pas pour les citoyens. Et dans la réconciliation qu'il peut y avoir, moi je ne pense pas que la population soit fâchée avec la police, mais dans cette réconciliation nationale, il y a l'idée de cette réserve opérationnelle. Nous le portons dans la loi qui est aujourd'hui au Parlement. Donc c'est ici et maintenant très concret. Et demain, ceux qui voudront s'engager, et ce sera thématisé pour ceux qui le souhaitent, dans la lutte des violences faites aux femmes, contre les enfants, pour lutter contre un certain nombre de méfaits qui touchent chacun d'entre nous, et ben vous pourrez vous engager, donner des jours dans la police nationale. Alors en uniforme et pas en uniforme. Ça peut être dans les bureaux, ça peut être à l'écoute
téléphonique. Vous croyez qu'on va s'engager quand on voit que la délinquance ne baisse pas ?
Mais la délinquance, elle baisse. Le président de la République...
Les cambriolages baissent, les homicides ne baissent pas.
Attendez, vous avez des choses qui augmentent ou qui sont difficilement... comment dirais-je, c'est dur de lutter contre elles. C'est le cas effectivement des violences contre les personnes,
oui,
et notamment
les
violences intrafamiliales, donc contre les enfants ou contre les femmes, c'est vrai. Sans doute dû à la liberté de la parole désormais, mais c'est vrai. Et nous devons nous dire que nous devons faire mieux là-dessus. Vous avez beaucoup d'indicateurs de la délinquance, comme on dit aujourd'hui, qui baissent. Il y a beaucoup moins de voitures volées qu'avant. Il y a beaucoup moins de voitures brûlées qu'avant.
Vous reconnaissez que les homicides ne baissent pas ?
Alors, les homicides restent en moyenne à peu près à 900 depuis 10 ans. Mmh. Et donc, c'est effectivement une question à laquelle il faut que nous posions. Or, attentat, hein, c'est vraiment important d'évoquer que partout dans les pays occidentaux européens, ces homicides ne baissent pas. Et donc, on doit continuer à travailler autour de la lutte contre les personnes, la lutte contre les violences faites aux personnes.
Sur le front du trafic de drogue, je pense à Marseille, on entendait ce matin le reportage d'Alice Moreno. C'est un phénomène en pleine explosion. Il y a encore eu un règlement de compte lundi soir, 2 semaines après votre venue avec le président de la République. Ça ne s'arrêtera jamais en fait, on est impuissant.
Le phénomène de grande explosion, c'est celui de la lutte contre la drogue auquel nous apportons des coups définitifs.
On en est où de l'enquête là ?
Alors d'abord, il y a 2 fois moins de règlements de compte aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans. Et ces règlements de compte sont toujours le thermomètre de l'activité de la police et de la justice. Parce que quand les gens sont arrêtés, des trafiquants qui, je l'ai déjà expliqué ici, font du commerce avec 100 000 euros de points de deal par jour. Quand ils sont arrêtés et sont mis en prison, d'autres essayent de prendre leur territoire. Et ces règlements de compte sont parfois commandés de ces prisons. Et pour plein de raisons, le travail fait par la police, par la gendarmerie, par la justice en ce moment est extrêmement efficace dans les cités, notamment dans les cités de Marseille. Et ces règlements de compte sont des règlements entre trafiquants. Nous les regrettons, évidemment, mais ils sont toujours aussi le thermomètre de l'activité de la police.
Monsieur le ministre, ce que réclamaient les policiers, c'était aussi plus de simplification dans leur travail. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron veut étendre ce qu'on appelle les amendes pénales forfaitaires. Sauf qu'il y a 6 amendes sur 10 qui ne sont pas payées.
Alors c'est faux. C'est faux parce que l'amende forfaitaire pénale pour la drogue, il y en a 100 000 qui ont été mis.
D'abord, pour la drogue ?
Oui, parce que c'est celle qu'on a mis
en place. Il y a 40% des amendes qui ne sont pas recouvertes.
Non, mais elles ne sont pas recouvertes dans la première instance. C'est-à-dire que quand vous avez une amende, madame, quelle que soit cette amende, une amende routière, soit vous la payez tout de suite, soit vous êtes relancé. Dans un délit routier, quand j'étais ministre des Comptes publics, j'étais en charge des impôts, seuls 30% des gens qui avaient une amende routière la payaient systématiquement. Puis ensuite, vous avez une relance de la part des impôts. Et bien avant la relance, l'amende stup, l'amende contre consommation de stup, aujourd'hui, elle est payée à effectivement 50%. C'est-à-dire qu'elle est l'amende la mieux payée de toutes les amendes que nous mettons. Et puis ensuite, il y a la relance par le Trésor public. Chacun sait que ça prend du temps. Cette amende, madame, on l'a mise en place il n'y a même pas 9 mois. Donc elle marche bien. Et c'est une amende pénale. C'est-à-dire qu'elle est en plus sur votre casier judiciaire. Et c'est extrêmement important.
Emmanuel Macron avait aussi annoncé une réforme de l'IGPN. Alors cette fois, on parle du contrôle des policiers. Et finalement, ce sera une délégation de parlementaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir des députés, des sénateurs de tous bords politiques qui vont contrôler, qui vont faire le boulot de l'IGPN, la police des polices. En quoi ils sont légitimes, ces élus ?
Alors non, ce n'est pas tout à fait ça, mais il y a eu beaucoup de commentaires de gens qui n'avaient pas entendu le président de la République. Aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, je veux le dire, sont les personnes les plus contrôlées de tous les agents publics. C'est sans doute normal, puisqu'ils ont la force avec eux. Enfin, c'est quand même à souligner. 7%, c'est le nombre de policiers que représentent dans le total des fonctionnaires, représente 55% des sanctions de tous les fonctionnaires. Il n'y a pas un corps plus contrôlé, plus suivi que les policiers. Il y a plusieurs façons de les contrôler. Il y a l'IGPN ou l'IGGN, c'est-à-dire ceux qui s'occupent en interne du contrôle de la police ou de la gendarmerie. Il y a évidemment la défenseur des droits, autorité administrative indépendante. Il y a la judiciaire, bien évidemment, qui se
saisit. Et donc on ajoute une délégation d'élus.
Et nous, d'abord, nous ne changeons pas, c'est, je veux dire, très important, le travail de l'IGPN, qui est de belles structures qui agissent au nom de la justice et qui sont dépendants du directeur général et dont le président de la République.
Mais c'est parce que vous voulez plus de transparence, c'est parce que vous voulez publier tous les rapports.
Qu'est-ce qui se passe ? Mais nous publions tous les rapports désormais.
Disciplinaires.
Tous les rapports.
On va savoir du début à la fin comment
tous les rapports seront désormais publiés, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Comme
c'est
ça, chacun pourra le constater, puisqu'il y a beaucoup de fantasmes et qu'on n'a rien à cacher dans la police, rien à cacher dans la gendarmerie, et qu'on doit prendre très rapidement, plus rapidement peut-être, les propositions de sanctions. Désormais, sous un mois, avant, il n'y avait pas de délai. Mais le Parlement, on n'a rien à cacher au Parlement. Une grande démocratie doit montrer que l'exécutif, le ministre de l'Intérieur, le premier, peut répondre à toute question des parlementaires. Dès qu'il y a un problème, On l'a vu dans l'affaire Zecler. On l'a vu dans l'affaire des problèmes des Gilets jaunes. On l'a vu dans les attentats.
Un tir de LBD.
Il y a des commissions d'enquête parlementaires qui se créent comme ça, ex nihilo. Ben, nous propose, comme dans la délégation parlementaire au renseignement, c'est-à-dire des parlementaires qui contrôlent les services de renseignement, qui est une délégation parlementaire qui soit ad vitam en charge des forces de l'ordre.
Gérald Darmanin, la France est un État négrier. Ça, c'est le responsable de la Ligue de défense noire africaine qui l'a affirmé sur un plateau de télé après des incidents dans la commune de Val-de-Reuil. Vous avez annoncé engager la dissolution de cette association. Ce sera fait quand précisément ?
Nous avons lancé, donc la notification a été faite hier. Il y a 15 jours, dit le droit, pour avoir un contradictoire, c'est-à-dire pour qu'ils puissent donner leur propre vision des choses. Et donc, dans le troisième Conseil des ministres qui suivra ce contradictoire, c'est-à-dire dans 3 semaines, je proposerai au président de la République et au Conseil des ministres la dissolution de la Ligue de défense dite de défense noire.
Et ce sera fait dans la foulée ?
Ce sera fait dans la foulée. Vous savez, comme on l'a, j'ai pas eu la main qui tremble à la demande du président de la République sur tous les autres sujets. Beaucoup d'associations racistes, xénophobes, antisémites, islamistes vivaient dans notre sol. Et je constate que le Conseil d'État nous a toujours suivi quand on a fait ce choix très dur.
Gérald Darmanin, rapidement, vous êtes ravi de vous appeler Gérald ou vous auriez préféré Moussa, votre deuxième prénom ?
Alors, je vois à peu près à quoi vous voulez faire allusion. Moi, je suis très heureux du prénom. Du prénom que m'ont donné mes parents.
Mais ça a été un sujet entre vos parents ? Gérald, c'était mieux pour s'intégrer ?
Avant de naître, je n'étais pas forcément au cœur des débats.
Vous avez pu en parler avec eux.
Mais je suis très, très fier que mon...
C'était pour s'intégrer ?
Je suis très fier que mon deuxième prénom soit Moussa. Mon grand-père était harki. Il s'est battu en 1940 pour la France. Il a libéré, notamment les eaux, des Allemands. Et dans 3 semaines, j'ai l'honneur d'inaugurer une rue à son nom. Adjudant-chef Moussa Wakid, 14e tirailleur algérien. Je ne vois pas ce qu'on peut être plus français qu'un français de volonté.
Merci Gérald Darmanin.
Monsieur le ministre, vous restez avec nous car dans quelques minutes, ce sont les auditeurs d'RTL qui vous poseront leurs questions.